écoutez À Propos, le podcast d'actualité du journal Le Soir. Tous les jours, c'est l'expertise de notre rédaction dans vos oreilles. Tous les ans, la cérémonie des Magritte célèbre le cinéma belge. Le président du jury de cette année, Bouly Lanners, est passé nous voir à la rédaction. Je m'appelle Pierre Fagnard. À propos, voici l'actualité, comme vous l'entendez.
Grand angle.
La 13e cérémonie des Magritte du cinéma aura lieu le 9 mars prochain. C'est l'acteur et réalisateur Bouly Lanners qui en présidera le jury. Bouly Lanners est passé à la rédaction. Il a donné une grande interview à Fabienne Bradfer et à Christophe Berti. Une interview à lire dans laquelle il revient sur la cérémonie en tant que telle, sur son avenir dans le cinéma et sur ses engagements, notamment en faveur de la planète. Pour le podcast, on avait envie de quelque chose de différent. On a donc allumé les micros, posé une question et puis on a laissé courir la conversation. Bonjour Bouly Lanners.
Bonjour.
Est-ce que vous avez vraiment envie de parler de cinéma ?
Non.
Pourquoi ?
Parce que à un moment donné, quoi dire sur le cinéma ? Je veux dire, on peut pas, c'est pas un sujet qui peut renouveler le propos indéfiniment. Et puis il y a déjà beaucoup de gens qui adorent parler du cinéma, qui adorent s'entendre parler du cinéma, donc on peut parler de plein d'autres choses.
C'était un peu mon point de vue depuis le début. Vous êtes ici notamment pour parler des Magritte, la cérémonie du cinéma belge, cérémonie dont vous présidez le jury cette année. Mais j'avais pas envie de vous reposer, c'est quoi votre rapport au cinéma belge ? Pourquoi est-ce que c'est important d'avoir une cérémonie comme ça ? Et juste, même si j'ai dit qu'on n'allait pas parler de cinéma un petit peu, je vous ai entendu tout à l'heure, il y a l'idée de faire un pas de côté, c'est pourquoi ? C'est parce que vous avez l'impression de, là, d'avoir fait un peu le tour de ce qu'il y avait moyen de faire dans un premier temps autour du cinéma ?
Oui, là j'ai terminé un premier tour. Je me dis, mais bon, c'est pas pour une raison de chiffres, là ça va faire 40 ans que j'ai commencé à travailler dans le cinéma, et le monde du cinéma a très fort évolué comme la société en 40 ans, et je ne retrouve pas le même plaisir aujourd'hui à faire des choses que je faisais. Voilà, j'avais un autre plaisir à les faire avant. Et puis surtout, j'ai la hantise d'être le réalisateur, le vieux réalisateur, celui à qui on n'ose pas dire tu sais tes trucs. Parce que il y a un événement marquant qui m'a. Il y a quelques années, il y avait un vieux réalisateur belge dont je ne citerai pas le nom, qui était un des fondateurs du cinéma belge, à qui on doit beaucoup de choses, et qui revenait encore une fois avec un projet de film, et qui n'est pas passé à la commission, et puis il est repassé, et puis il n'est pas repassé, et puis il est repassé une troisième fois, et je trouvais ça terriblement humiliant. Et moi je savais qu'il ne passerait pas parce qu'il était, c'était daté, mais personne n'a eu les couilles de lui dire écoute, en fait t'es trop vieux, et je dis c'est très dur de vieillir en tant que... Et bien, beaucoup de réalisateurs qui étaient des réalisateurs dont j'aimais beaucoup le travail, avec l'âge ça s'étiole, peut-être qu'on est moins pertinent dans le propos, et je me dis je peux faire d'autres choses, mais je ne veux pas être le réalisateur de trop, celui qui fait des films parce qu'il a le statut de réalisateur.
C'est la peur de l'humiliation pour l'humiliation, ou c'est la peur d'avoir un décalage justement vis-à-vis d'une industrie et de se dire en fait je suis trop vieux pour le cinéma, ou c'est le fait d'être juste à côté de la plaque qui vous fait peur ?
J'ai peur d'être à côté de la plaque, même si je pense que je ne le suis pas. J'ai encore cette prétention là, parce que je reste quand même très connecté à tout ce qui se passe dans la société et que je garde un point de vue sur beaucoup de choses, mais oui, j'ai peur d'être perçu comme un vieux, ça c'est un truc qui me fait peur. J'ai toujours été le plus jeune quand j'étais jeune, et j'ai du mal à accepter le fait que je sois le plus vieux sur les plateaux maintenant. Donc je préfère me renouveler alors, que d'être là et de faire partie des meubles. Et puis je n'ai plus envie de faire un film dans le même protocole que celui qui était le protocole que j'avais avant, c'est-à-dire déposer un dossier, passer à la commission, passer des oraux pour justifier la qualité de ton travail d'écriture, écouter des avis dont en fait tu t'en fous, mais tu fais semblant de les écouter, tout ça.
Mais il faut être poli, il faut faire semblant d'écouter.
Là, j'ai donné, c'est bon.
C'est la liberté qui vous manque en fait.
Oui, il y a une perte de liberté vraiment réelle dans la fabrication des films et dans la façon dont on aborde la fabrication des films, oui.
Alors vous allez vite voir où je vous emmène, mais c'est le moment où, c'est rare aussi dans ce podcast, mais où je vais un peu parler de moi aussi.
Oui. Ah.
Vous venez de relancer un théâtre de marionnettes, théâtre qui est l'héritier d'un théâtre historique de Liège, le théâtre Albot Roule, qui se trouve rue Hochepoort. Moi, mes parents habitent rue des Remparts, qui donne dans la rue Hochepoort.
Oui. Je suis allé des joies, je suis allé dire tout de suite, j'aurais été sympa.
Bah, vous avez été sympa.
Jusque-là, ça va.
Non, jusque-là, c'est propre. Magnifique rue. Hein.
C'est vraiment quelque chose, le théâtre Albatroul. Enfin, pour toute une génération de Liégeois, là, je fais peut-être une généralité, parce que moi, j'ai vraiment grandi à côté. Mais ça représente beaucoup de choses. C'est toute une tradition. Le théâtre, la marionnette liégeoise en tant que telle.
Mais la marionnette liégeoise reste très ancrée dans l'ADN des Liégeois. Il existe aujourd'hui à Liège, avec notre théâtre, 6 théâtres fixes, dans une ville de 200 000 habitants, de théâtre de marionnettes, hein, et 3 compagnies itinérantes. Donc ça fait quand même 9 troupes de théâtre de marionnettes. Les théâtres ne désemplissent pas. Il y a une éducation à la marionnette qui continue à être faite dans les écoles, ce qui fait que tous les enfants connaissent Tchan Tchien Hannes, etc. Donc le super-héros, nous, c'est pas Buzz l'éclair, c'est Tchan Tchien. Donc c'est ça qui est, ça reste. Et Albatroul était effectivement un des théâtres emblématiques de ces années-là. Ils ont commencé en 72, ils ont terminé il y a une dizaine d'années. Parce que Jacques a voulu faire revenir aussi les adultes au théâtre de marionnettes, qui originellement était un théâtre pour adultes. C'est au fil des années que c'est devenu du théâtre pour enfants. Donc nous, on a repris cette tranche-là de public potentiel, c'est-à-dire des adultes. Et force est de constater qu'effectivement, il y a une demande énorme, puisqu'on a vendu quand même en 24 heures les 750 places de la saison pour des marionnettes. Donc, et personne ne nous demande ce qu'on joue. C'est ça qui est drôle. Tout le monde s'en fout. Les gens veulent juste venir voir nos marionnettes.
Gens veulent venir voir des marionnettes, ouais, ou les gens veulent venir voir Bouly Lanners qui anime des marionnettes.
Ils ne le voient pas, puisqu'ils voient les marionnettes. Ouais, mais les gens oublient. Ils savent que c'est moi. Mais une fois que le pouvoir de suggestion de la marionnette est tellement puissant que tu oublies, même en tant qu'adulte, parce qu'on a essentiellement un public d'adultes, c'est à partir de 8 ans de toute façon, mais c'est essentiellement des adultes, les gens oublient que c'est moi derrière. Ils voient les marionnettes et ils sont chopés par le récit. Et ça, c'est génial, parce que tu retrouves quand même un truc de l'enfance où la suggestion prend une place capitale dans la narration.
Il y a cette liberté, et puis j'ai l'impression qu'aussi, j'ai l'impression que c'est ça qui vous attire dans le jeu de la marionnette. Il y a le double discours d'abord, et la possibilité de s'adresser effectivement à des enfants plus jeunes et à leurs parents. Et puis il y a quand même une tradition de subversion, un peu le théâtre de marionnettes, c'est un théâtre qui se moque historiquement.
Dans les années 20, on dit, les chiffres diffèrent, mais on dit qu'il y avait entre 50 et 70 théâtres de marionnettes à Liège, ce qui était énorme. Donc ça correspondait à un théâtre par quartier, plusieurs par rue parfois, et à ce théâtre-là, à l'époque, on réglait aussi les problèmes de politique locale, les problèmes de voisinage. Donc il y avait quelque chose déjà un peu de subversif, c'était un peu les guignols de l'info avant les guignols de l'info. Et aujourd'hui, la marionnette reste, même chez les tout-petits, reste un théâtre où la subversion est vraiment la bienvenue. D'ailleurs, elle est attendue toujours.
On est déçu un peu aussi s'il n'y a pas un twist un peu subversif.
S'il n'y a pas une bagarre et s'il n'y a pas un truc un peu subversif, en tout cas un petit peu de dénonciation, et en fonction des théâtres.
Il faut que Nanès vienne mettre des coups de gourdin à un moment ou un autre.
Oui, mais alors il faut aussi rechanger les. Nous, on joue de la tradition, mais on ne joue pas du folklore, parce que le folklore, pour moi, c'est quelque chose qui est légiféré. Voilà, dans le folklore, il y a des règles. Et nous, les règles, comme tous les marionnettistes de l'époque, on va les affranchir. On s'en affranchit. Donc, on joue effectivement, il y a Tchan Tchien Hannes, mais Hannes n'est plus du tout celle qui donne des coups de gourdin à Tchan Tchien parce qu'il a picolé. Hannes est une suffragette, c'est une féministe et tout ça. On n'est pas dans le wokisme du tout, mais on a des noirs qui ne sont pas des sarrasins, dont la fonction est juste d'être sarrasin et de se faire taper sur la gueule. On a évolué. Et les chevaliers ne sont pas spécialement des pré-chevaliers. Ici, le chevalier qui joue dans la première pièce, ça se passe au 19e, mais un temple y arrive, donc c'est totalement incohérent, un anachronisme total. Mais c'est parce qu'il a été massacré à Touva, à Jérusalem, et qu'il a été puni tellement il a fait des horreurs là-bas. Donc il est condamné à errer. Et il se retrouve à mener une enquête au 19e. Donc on rejoue des codes de la tradition, mais on les a fait évoluer.
Dans cet aspect un peu subversif et donc engagé du théâtre de marionnettes, on peut un peu se retrouver avec la figure que vous avez l'air de porter, en tout cas dans le cinéma. C'est aussi un truc que vous avez voulu éviter, de pas devenir l'acteur ronchon, l'acteur typique engagé, l'acteur qui râle pour certains trucs, etc. C'est aussi une étiquette qu'on aurait pu vite vous coller.
Oui, parce qu'à partir du moment où tu milites, forcément tu critiques, et à partir du moment où tu critiques, tu passes pour un ronchon. Et comme tu es dans le cinéma, on dit de quoi se mêle ce mec qui doit gagner
de sa tour d'ivoire, qu'est-ce qu'il va aller nous faire la mort.
morale. Qu'est-ce qu'il sait ce que c'est la vie? Ben moi je sais ce que c'est la vie, je viens d'un milieu populaire, j'ai galéré pendant 30 ans, je sais ce que c'est la vie. Donc je suis impliqué depuis bien avant que je ne sois comédien dans des problématiques sociétales, notamment le nucléaire. Mais je continue, je me sers de ça, mais il faut que je le fasse à dose un peu addictogène, parce que je peux pas être tout le temps le mec, parce qu'après moi on me demande, tu pourrais pas avoir un coup de gueule pour ça, un coup de gueule, mais je suis pas SOS coup de gueule.
J'allais vous poser la question.
J'ai failli le devenir, SOS coup de gueule, tout le monde me demandait, évidemment, et chaque cas présenté est un cas qui est tout à fait honorable, et mais je ne peux pas porter toutes les misères du monde et les amener, sinon je vais épuiser les gens, donc je dois faire gaffe à comment je... Et puis je veux aussi amener un peu d'espoir, je veux dire, si je fais mon théâtre de marionnettes, il n'y a pas du tout de thématiques sociétales dedans, qui sont les mêmes thématiques de société que je fais en tant que militant, on est dans des autres discours.
Je navigue pas tout à fait dans l'inconnu parce que j'ai écouté l'interview que vous avez donnée tout à l'heure à Fabienne Bradfer et à Christophe Berti, mais justement vous parlez d'espoir, vous êtes un petit peu optimiste pour ce qui s'annonce pour nous en tant qu'espèce humaine?
Ah non, je suis pas optimiste du tout, soyons très clairs, je suis hyper pessimiste, hein, pour moi.
Vous le dites avec le sourire.
Mais oui, parce que ce n'est pas parce que c'est la fin du monde qu'il faut mal le prendre. Et c'est, comme on n'arrive pas à sortir du modèle capitaliste, mais qu'on accepte l'idée que ce soit la fin du monde, j'ai l'impression que la société a accepté que c'est la fin, parce qu'on ne veut rien lâcher. On sait qu'on doit changer complètement de modèle de vie.
Mais ça fait tellement peur de changer.
Ça fait tellement peur qu'on préfère se suicider. Donc, bah, alors ok, d'accord, acceptons le suicide, mais alors allons-y gaiement. On n'a jamais envisagé un suicide collectif gaiement. Donc, et ce n'est pas parce que peut-être là, on est dans l'anthropocène, donc la race humaine va probablement disparaître, mais je ne sais pas sur combien de temps, mais ça va pas être... Dans les films, en fait, il y a toujours une grande vague qui fait 100 mètres de haut, qui vient, qui dévie, et tout le monde meurt d'un coup. Mais c'est parce que le film doit se terminer, il doit faire une heure et demie. Mais nous, dans la vraie vie, peut-être que la fin du monde, elle va se faire sur plein de générations, petit à petit, et qu'on va s'adapter, que... Voilà, donc... Il va y avoir un grand changement à un moment donné, ça c'est sûr, parce que continuer comme ça et faire fantasmer l'idée que les technologies futures vont résoudre c'est de la couille, parce qu'il faut une société qui ait de l'argent pour nourrir les technologies et la recherche. Et de l'argent, il n'y en a plus. Donc, et les minerais pour faire de la technologie, il n'y en a plus non plus. Donc, on ne peut pas tous être des Elon Musk et avoir ce rêve. C'est pas possible. Dans l'équation, c'est impossible. Donc, on sait qu'à un moment donné, ça va coincer. Donc, forcément, il y a un moment donné où ça va basculer, quoi. D'ailleurs, en économie, on appelle ça le point de futilité. C'est le point que Marx déjà a annoncé, c'est le point de fracture entre le prix que coûte l'extraction d'un minerai et le prix que coûte à la vente un produit
fabriqué à partir
de ce minerai. Et quand le produit fabriqué coûte moins cher, alors forcément, il n'y a plus de bénéfices et c'est l'effondrement, ça s'appelle le point de futilité. Et comme l'économie, à part en Corée du Nord, elle est capitaliste partout, quand ça va s'effondrer partout au même moment. On a déjà vu avec le Covid, hein, il suffisait qu'il n'y ait plus du tout d'ingrédients qui viennent de Chine pour telle et telle et telle chose, tout à coup, il y a une raréfaction sur le marché de tous les produits. On sait que quand ça va partir en couille partout en même temps.
Juste pour terminer, vous avez eu plus ou moins 37 000 vies, vous l'avez dit, une quarantaine d'années à différents métiers dans le cinéma, maintenant aussi des marionnettes. Vous nous avez dit tout à l'heure que vous ne feriez pas de théâtre parce que vous aviez trop peur de l'humiliation pour monter sur des planches. Il y a de la peinture aussi, il y a des cours à l'INSAS. C'est quoi dont vous êtes le plus fier? S'il y a un truc que vous deviez retenir?
J'étais le meilleur barman de Liège. Ça, j'ai toujours été un excellent barman. Le métier dans lequel j'excelle, c'est barman. Et c'est pour ça que j'ai fait un bar dans mon petit théâtre de marionnettes, parce que je reprends le bar après et je suis un très bon barman.
Merci Bouly Lanners. À propos, c'est fini pour aujourd'hui, mais on revient demain matin. Merci de votre écoute. Si vous en voulez encore, tous nos podcasts sont disponibles dans l'application du soir. Rendez-vous dans le store de votre smartphone ou de votre tablette pour la télécharger. À demain.